Il est pas, même pas catégorisé horreur, je crois, hein, le film. Je crois que c'est comédie dramatique.
Comédie cauchemardesque, selon
Oui, mais,
selon
mais c'est pas un genre consacré dans Télé Loisirs, ça. C'est,
ce soir.
qui d'ailleurs, la vraie référence
qui, est
donne,
la référence
qui donne le registre cinématographique des films.
Bien sûr.
Oui, c'est aussi le même genre dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, comédie cauchemardesque. Donc, non, rien c'est... inventé, en fait.
Moi, j'avais pas vu le comédie, j'avais vu juste cauchemardesque.
J'ai vu cauchemar seulement.
No in a world, Jack. What do you mean, no in a world?
It's not that kind of movie.
Oh? Okay.
Vous êtes complètement tapé ou quoi? Ça va être une tragédie, ce truc-là.
Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie.
Removing the head or destroying the brain.
Ça n'a pas l'air très effrayant. Comme une grosse dinde.
On va passer une bonne soirée, Monsieur Pignon. Une très bonne soirée.
Accrochez-vous, ça va faire mal.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Feta Béa, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annoncées, ce sans aucune
objectivité.
Aujourd'hui, oubliez le monde coloré de l'animation japonaise et ajoutons un peu de cendre de phénix à notre palette de couleurs pour partir à l'aventure dans le monde étrange de Ari Aster. Un réalisateur qui nous revient après avoir abordé l'horreur en plein jour avec Midsommar, dans lequel on pouvait voir des poteaux piégés en plein culte satanico-païen, ou même encore avec Hérédité avant, qui traitait aussi d'un culte satanico-païen et où on retrouvait aussi une histoire de poteau. Cette fois-ci, son poteau, c'est Beau, et Beau, c'est Jo. L'histoire d'un gars qui a peur du monde qui l'entoure. Et je vous avoue que nous aussi avons quelques frayeurs quand on aperçoit dans la BA de Beau is Afraid les nouveaux sortilèges que nous réserve Ari. C'est dans cette atmosphère effrayante que je vous présente ma team de podcasters slash pétochards d'aujourd'hui. Ambiance. À l'instar de Joaquin Phoenix qui vivra ses plus grandes peurs dans le dernier cauchemar de Ari Aster, j'ai demandé à ma team, quelle est votre plus grande peur? Avec nous autour de la table, on a William.
Hello.
William, qu'est-ce qui t'effraie?
Moi, ce qui m'effraie aujourd'hui, c'est de vous filer mon rhume. Je suis un peu malade, donc respirez pas trop fort, les mecs.
J'ai compris, mon rib.
Non. tu l'auras pas, c'est sûr et certain.
Ton rib, bâtard.
C'est sûr, c'est
tout de suite.
Je vais te faire un virement. Okay.
Non, petit, j'avais peur des jouets collection Hachette dans les magazines, voilà. Parce qu'ils étaient souvent phosphorescents et la nuit, quand je me réveillais, ça me surprenait.
Aux éditions Altaïa, tout ça, hein.
Ouais, les trucs comme ça, ouais.
La première pièce du train.
Voilà.
Incroyable modèle de la légendaire locomotive. Les premières pièces et le fascicule, 50 centimes seulement, actuellement en librairie Altaïa.
Si tu te dis, ah, c'est cool, ça a l'air pas très cher, et puis au final, t'as dépensé 1500 euros pour avoir un train en carton, quoi.
Eh oui, c'est une tactique commerciale, la vraie peur de tous aujourd'hui. Kevin aussi est là. Salut, Kevin.
Bonjour.
Qu'est-ce qui te fait peur, Kevin?
J'ai peur de beaucoup de choses, mais ce qui me fait le plus peur, c'est les nombrils.
Pardon,
c'est okay. Vrai.
Non, mais on se moque pas.
C'est vrai, j'ai peur des nombrils.
Une peur très profonde à psychanalyser.
Là, si je te montre mon nombril, qu'est-ce qui se passe?
Bah, ça me dégoûte, mais si tu mets ton doigt dedans, j'ai l'impression que tu touches tes organes et ça me fait peur.
Là, là,
arrête.
Comme ça.
Ouais.
Je suis actuellement le doigt dans le nombril.
T'es la deuxième personne que je rencontre comme ça.
Ah ouais?
Ouais.
Ça doit être homologué comme peur.
Mais c'est vrai qu'il y a quoi au bout du nombril?
Un vortex,
non,
un trou noir.
La question, ça se trouve, on sait pas.
Très souvent, déjà, il y a de la saleté.
Arrête!
Parce que les gens le nettoient quand même sûrement pas très bien.
Bah, c'est plein de plis, mais moi je me suis toujours demandé si c'était. Si tu le décalotais, si tu pouvais avoir accès à tes intestins.
Arrête, c'est exactement les questions que je me pose et qui me font peur.
Ok, 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 on passe à la suite. Clémence aussi est là. Salut Clémence!
Salut!
Quelle peur te fait peur?
Plusieurs.
Dis-nous.
D'abord les poupées.
Les poupées.
Ma vie, mon enfance a été traumatisée.
Classique
shit. Les poupées. Je jouais tranquillement dans ma chambre, il y avait une poupée qui me regardait et au bout d'un moment, c'était comme un battle de regards et de pression et je fuyais de ma chambre tellement j'avais peur que qu'elle me saute dessus. Arrête de regarder derrière moi. Arrête, elle est là, c'est ça.
Bah t'as un Among Us et un Mascasse derrière toi.
Donc ça va, c'est des peluches.
Ah, nuance.
c'est pas la même chose.
Donc pas de Barbie, rien.
Non, les poupées plutôt comme les poupées poupons, tu vois, les poupées Corolle et tout, les pour les petits, les
Chucky,
quand tu
quoi.
Veux jouer au bébé.
Les trucs.
Oui, voilà. Ça.
Ouais. En fait, c'est ça, t'as été traumatisé par Chucky. Hein.
Et aujourd'hui, il y a encore une chose qui me fait peur, c'est les limaces.
Les limaces.
Oui, les jours de pluie, je me sens très très mal. J'ai trop peur des limaces.
Parce qu'elles sont, c'est des escargots qui sont nus. En fait, c'est ça.
Oui, c'est horrible. Ça rampe très lentement vers toi. Ça fait pas de bruit. Ça arrive près de ton pied et ça.
Tu l'as jamais vu partir de chez Jojo et Clem après un épisode, toi. Hein.
Putain. Mais quand vous avez regardé Matrix ensemble, le moment où il y a une limace qui rentre dans le nombril, vous avez dû faire.
C'est pas une limace, c'est un petit.
C'est vrai.
Oui, c'est une crevette.
C'est pas une limace, c'est une crevette. Ouais, c'est une crevette. Et toi, t'as peur de quoi, Romain? De quoi t'as
peur? Bon, moi, mes peurs. J'aurais pu vous parler de la peur d'un lendemain incertain, celle du monde actuel, de la suprématie en maître de l'avidité capitaliste, du consumérisme de masse aveuglé par les spots publicitaires, ou encore de la date de péremption imminente de nos énergies fossiles et de toutes les violences inévitables qui en découlent. Mais a-t-on vraiment le temps? Est-ce que le sablier géopolitique a encore assez de grains en son sein? Non, moi j'ai.
Quelle belle improvisation, Romain.
C'est très beau. Hein.
Non, j'ai peur des chiens.
C'est vrai.
De tous les chiens.
Ouais, mais c'est un trauma de l'enfance, en fait. Ah. C'est un trauma de l'enfance. Wow.
Bah alors, on n'éteint pas son téléphone, hein? Hein, on n'éteint pas son téléphone.
Ah, ma plus grande peur d'avoir le téléphone allumé en plein podcast, ça y est aussi. Non, j'ai peur des chiens. Ouais, j'ai été traumatisé quand j'étais petit. Je me suis fait niaquer quand j'avais 4 ans. Ou 3, ben bref, la tendre enfance, quoi. Du coup, c'est resté gravé dans ma mémoire sensorielle à vie. Et j'ai peur des gros chiens, en fait, hein, ceux, qui te, ceux qui te niaquent. Hein. Je vais rien faire face à un chihuahua ou un petit bichon.
Ça devrait aller.
C'est plus dangereux.
Ouais, non, mais vraiment, tu vois, les rottes, même les labradors. J'avais un labrador qui habitait à côté de chez moi quand j'étais plus jeune. Et je devais passer devant pour aller chercher le pain ou des trucs comme ça. J'avais toujours peur que le portail soit ouvert. Et la plupart du temps, il était ouvert.
Est-ce que ça te fait ça dans la rue quand tu croises un gros chien? T'as peur qu'ils sentent ta peur et que.
Bah, à Paris, moins, parce qu'ils sont obligés d'être tenus en laisse. Mais dans mon Vietnam natal, c'est Bagdad. Hein, c'est vraiment des chiens. Tu peux passer, ils sont errants et tout. Et eux, ils sont pas les couilles de noir, blanc, femme, homme, ça te niaque. Donc, ouais, non, mais après, c'est une peur à la con parce que voilà, c'est un trauma. Mais
c'est un trauma d'enfance, quoi.
Tous les chiens ne sont pas méchants, en vrai.
Après, hein, je pense qu'il y a, des peurs qu'on a tous plus ou moins eu, gamin, genre. Nager dans, je sais pas, dans un lac et qu'une bestiole vienne te niaquer par en dessous, tu vois, je veux dire, on l'a tous eu.
Non, est-ce que vous avez eu la peur? Parce que... Ouais, je m'ouvre à vous.
tu es dans
trou
un
du cul.
T'es dans un espèce safe.
Tout ce qui est orifice, en fait.
Ouais, quand j'ai lu Trop Jeune Dreamcatcher de Stephen King, et dans Dreamcatcher de Stephen King, il y a une scène où il y a un mec qui se fait bouffer le cul par un extraterrestre qui est dans les chiottes. Et moi, pendant longtemps, j'ai eu peur que pendant que je faisais caca, que j'étais à découvert,
qu'il
y a quelque chose qui sorte des chiottes et qui me niaque.
Ça doit avoir un nom, ça. Je sais pas si quelqu'un peut chercher, mais je suis sûr que ça a un nom.
Je l'ai plus, hein, c'est fini. Je sais que c'est impossible.
En Australie, t'as des serpents qui passent dans les conduits et qui sortent par les chiottes.
De toute façon, il y a tout qui fait peur dans ce pays.
Tu peux avoir. Tu sais que les araignées, elles sont hydrophobes. Donc en gros, quand une araignée va dans l'eau, elle survit. Parce
hydrophile,
que,
tu veux dire.
Hydrophile, hydrophobe, hydrophile.
Oui.
Non, hydrophobe,
c'est en mode ah de l'eau. Ah c'est
comme hydrofuge.
C'est comme les canards, quoi. Je veux dire, elles sont imperméables, donc du coup, elles peuvent.
C'est des araignées canards, quoi.
C'est pour ça les plumes.
Les canaraignées.
Voilà. Là.
Ah, c'est horrible.
Mais non, il y en a beaucoup qui ont peur, ouais, de la profondeur, la thalassophobie, tout ça. C'est vrai que quand tu te retrouves dans l'eau, dans le grand bleu, moi, ça m'est déjà arrivé de me baigner en plein océan Pacifique. Tu y penses une fois, après bon bah tu remontes sur le bateau. Hein.
Bah autant dans un océan ça peut se comprendre, dans un lac.
Bah
normalement à part quelques saumons il risque pas d'y avoir grand chose quoi. Vous pouvez y aller tranquillou.
Des anguilles, des monstres du Loch Ness.
Après t'as les classiques, t'as le vertige, l'agoraphobie, la claustrophobie, tout ça quoi.
Marine Le Pen phobie.
Les foules, hein. La foule. Ouais, ça paraît bête mais dans les villes maintenant on est tellement très serrés les uns contre les autres, par exemple dans les transports en commun, moi je peux comprendre qu'il y a des gens qui se sentent très vite.
Moi je suis depuis le Covid, hein, j'ai un peu cette agoraphobie là qui j'avais pas avant, mais voilà. Ça passe plus en festival parce que festival, bah, t'es à 36 grammes par litre de sang et t'es entouré de personnes bienveillantes. Mais,
36 grammes c'est beaucoup quand même.
Mais genre aller dans Paris un samedi après-midi de beau temps, full trottoir, non, c'est.
Non, et puis après il y a la peur classique de la mort. Moi personnellement je l'ai pas trop, mais je sais qu'il y a des gens que ça angoisse beaucoup.
Moi j'ai pas peur de la mort, j'ai peur de mourir, c'est pas pareil.
Explique.
Bah en fait le fait d'être mort me fait pas peur, c'est la transition qui me fait peur.
Ah, de pas savoir ce qu'il y a derrière.
De mourir, en fait, de se sentir mourir, ça me fait peur. Mais d'être mort ne me fait
et
pas
si
peur.
Et si je touche ton nombril
si
là.
Comprenez. Arrête. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas?
Mourir par étouffement du nombril.
C'est-à-dire que l'état de mort ne fait pas peur, c'est le fait d'être mort un jour ne me fait pas peur.
C'est quelque chose que t'acceptes, quoi.
Voilà, ce qui va me faire peur, c'est plus l'étape de transition vers la mort, quoi. Le moment où tu meurs, quoi.
Le moment où tu commences à te dire là.
Là je meurs.
Là ça commence à être dur.
C'est ça.
C'est pour ça que je pense que. Je suis sûr que tu aimerais une mort dans ton sommeil.
Bah ouais, sûrement, je pourrais te raconter quand ça m'arrivera.
Parce que pour moi, ce serait la plus belle mort, hormis mourir comme un Jedi, mais la plus belle mort, ce serait de mourir dans son sommeil.
Mourir comme
ça.
Un Jedi.
Bah, c'est-à-dire ton corps disparaît, quoi, tu fais pas chez ta famille avec les obsèques.
Mais ça n'existe pas, Romain.
Bah, j'aimerais bien, justement.
Personne ne meurt comme des Jedi.
Ouais, la mort, la thalassophobie, les chiens, les marionnettes, le nombril, on en apprend tous les jours.
J'avais une pote qui avait peur des grues. Les grues de chantier.
Ouais.
Voilà. Et ouais. Vraiment, c'était une vraie peur panique. Elle pouvait pas passer près d'un chantier. Ou dès qu'elle en voyait une, elle était vraiment.
C'est la folie, enfin la peur des grandeurs, la phobie des grandeurs aussi.
Oui. Oh, mais ça, je trouve que c'est un peu comme le principe du vertige, mais inversé. C'est-à-dire quand tu vois un truc très très haut à côté de toi et que t'as l'impression qu'il bouge et qu'il va vaciller, te tomber dessus ou quoi. C'est comme
ça
quand t'es
submerge.
En haut d'une hauteur et que t'as l'impression que t'es attiré.
Johanna, elle avait ça aussi. Elle avait genre aller au Louvre pour elle, les statues immenses et tout, c'était un peu compliqué. Et donc Paris qui est full monument orné de statues, c'était parfois on faisait des détours et tout. Je crois que ça lui est passé maintenant, mais faut pas aller à New York.
Ouais. Ouais, grands buildings.
Les buildings et tout. Ouais.
Ou à Dubaï.
Je connais qu'on peur des étiquettes.
Mais... De la peur. On parle de peur parce qu'aujourd'hui on va parler d'un mec qui a peur. Hein, c'est Beau is Afraid, hein, comme son titre l'indique. Beau a peur, hein, tout simplement. Un film de Ari Aster qui nous revient nous après Midsommar qu'on avait traité dans l'épisode combien, Clémence?
5.
13.
12.
La chronologie est pas...
On avait aimé hein, Midsommar, c'était très très bien.
Oui, Midsommar, voilà. Donc, pour rappeler, hein, Ari Aster, réalisateur de 36 ans, hein, pas plus, à peine plus vieux que nous. Faut un peu les boules, hein, mais bon, voilà. Né à New York en 1986, du coup, si je calcule bien. Donc, voilà, il avait fait aussi Hérédité. Et ces deux films ont quelque chose en commun, c'est que ça joue sur l'horreur psychologique. On va y revenir, hein, mais tout vient au début de sa passion pour les films d'horreur. Qui s'est déclaré à l'adolescence, où il louait moult films du genre dans son petit vidéoclub, et ensuite très influencé notamment par des films comme Rosemary's Baby.
Ah yes.
Y a pas mal d'influences Polanski chez Ari Aster. Et il a commencé à écrire des scénars. Donc ça, c'est son adolescence. Ensuite, il se tourne vers des études d'art, où il obtient sa maîtrise à l'American Film Institute, donc une maîtrise obtenue avec son court-métrage de fin d'études, The Strange Things About the Johnsons. Je ne sais pas si vous avez vu ce film.
Non.
Moi, je l'ai vu.
Tu nous en avais parlé déjà à l'épisode 13.
Ouais, l'épisode Midsommar, j'avais vu ce film. Je le mettrai en lien dans la description parce qu'il est sur YouTube, en fait. Et c'est même d'ailleurs ce qu'il a fait connaître parce qu'il avait été présenté dans des festivals et tout. Mais le moment où il a été mis sur YouTube, c'est devenu viral à l'époque. On est début 2010 à ce moment-là. Et le film, les gars, je crois que c'est un des films les plus malaisants que j'ai vu de ma vie. Mais c'est vraiment l'horreur malaisante, quoi. Comme seul Ari Aster sait faire un peu ce qu'on retrouve aussi un peu dans Hérédité et dans Midsommar. Le film, il n'y a pas de gore, il n'y a pas de sensationnalisme, de monstre ou de quoi. Waouh, le film, et je ne peux pas vous en parler parce que sinon je vais un peu dévoiler trop de choses, mais le film est ultra malaisant.
Est-ce que c'est un peu comme du Lynch?
Je ne pourrais pas te dire, je n'ai pas vu beaucoup de Lynch, je ne suis pas trop fan de son ciné.
Est-ce que c'est bien?
En vrai, c'est bien. C'est bien parce que ça te procure des émotions et moi j'aime ça, tu vois. Et dans ce petit court-métrage de 30 minutes... Dans une petite famille de banlieue américaine, il se passe des choses très étranges.
Qui donne trop envie de le voir.
Ouais, mais matez-le, hein, je vous enverrai le lien.
Moi, si j'étais un auditeur, j'irais écouter notre épisode 13, puis j'irais voir ce court-métrage.
Ouais, et je mettrais 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute.
Je donnerais 150 euros au RIP suivant. 740.
Donc voilà, il a fait ensuite quelques courts-métrages. Ensuite, on en a parlé, c'est Hérédité et Midsommar.
Révélation. Hein.
Qui deviennent rapidement cultes, en fait, dans le genre horrifique. C'est aujourd'hui, c'est des films qui sont cités un peu comme le nouveau genre de l'horreur.
Et qui ont mis en avant beaucoup A24 aussi.
Oui.
C'est à travers ces films-là que cette boîte de prod commence à se révéler et devient un peu la nouvelle boîte de prod indépendante.
C'est surtout avec ces films-là qu'on a commencé à parler de Elevated Horror.
Ouais, ouais, des films comme It Follows ou It Comes at Night ou des choses comme ça où on oublie un peu les monstres, Halloween et compagnie, et on passe plus sur l'horreur. Inside the mind, dans le cerveau, je suis bilingue.
Sorry, bro.
T'es vraiment incroyable.
Donc, c'est un peu la nouvelle vague de l'horreur, et puis bon, bah, c'est devenu un peu son credo, hein, au Ari Aster, de toute manière. Et là, il revient en 2020 où il annonce le projet Beau is Afraid, qui ne s'intitule pas Beau is Afraid au départ. Et ça te fait plaisir, William, tu sais comment il s'appelait ?
Boulevard.
Disappointment Boulevard. C'était pour te faire plaisir, je crois qu'il l'avait noté comme ça.
Et bah, je suis heureux. Pourquoi il a pas gardé ce titre ? Bah, j'ai vu aussi que le film à la base devait faire 4 heures. Donc, alors, je suis content qu'il ait changé des trucs.
C'était son ambition, c'était de tourner avec Joaquin Phoenix dans un film qu'il annonçait comme une comédie cauchemardesque. Ça, c'est ses mots. Hein. Comédie cauchemardesque de 4 heures.
Trop. C'est trop, Harry.
Donc, au final, il a Joaquin Phoenix au casting. Il retrouve A24 à la prod. Hein. C'était aussi les mêmes pour ses deux premiers films. Et puis voilà, on a cette BA maintenant qui est là.
On se la regarde.
Et qu'on va se regarder tout de suite. Allez, on se la lance. Ah, elle fait peur.
I am so sorry. For what your daddy passed down to you. wanted a child. The greatest gift of my life.
I'm visiting my mother tomorrow.
Hi, Carrot. It's Mom. I'm just calling to say that I'm so, so, so excited to see you tomorrow. You're my angel, and I love you. Okay. I love you. Okay, bye, sweetie. I love you.
Are you at the airport?
I'm on my way. It's not safe, is it? What do you think I should do?
I'm sure you'll do the right thing, sweetheart.
Welcome back.
I hit you with my car.
What?
I know.
What is this?
That's my little assistant health monitor.
Feeling sad about going home, Bo? Must feel totally unreal.
I'm supposed to be leaving.
I don't know if that's gonna happen.
You will walk many miles. Dozens will become hundreds. Hundreds will become thousands. Your adventures will continue for years and years.
I just need to get home.
I know.
Do you want the truth now?
Yes!
Allez, encore une psychanalyse en film, quoi. Ils ont des problèmes, les réals. Hein.
Ah, c'est vraiment une recherche en...
Goodbye, stranger.
Si maintenant ta thérapie doit coûter 4 millions d'euros... De dollars, 400 millions de dollars. C'est chiant, quoi.
La thérapie...
C'est dur, hein. Mais pas remboursé par la sécurité sociale.
Mais quel BA en tout cas, waouh! What a BA! What the fuck? C'est une BA très étrange, mais en même temps, qui est aussi fidèle au cinéma de Ari Aster. Et là, on a pris la BA suisse pour cette émission, parce qu'il y a eu deux BA en France. Il y en a une qui est un peu plus dans le ton comédie, qui est sorti il y a quelques mois, et la dernière qui est sortie, c'est un peu plus dans le ton horrifique, mais c'était deux BA de moins d'une minute. En fait, la BA suisse et québécoise, qui sont les mêmes, en fait, réunissent les deux, donc pour nous, c'est plus simple de prendre cette BA-là. Voilà. C'était juste pour préciser, et elle est en lien dans la description, évidemment. On va en parler, évidemment, comme d'habitude, mais avant toute chose, vous le savez, c'est les petites stats. Les stats autour de la BA. Alors, qu'est-ce qui se passe niveau chiffres? Où est-ce qu'on est? On est sur 88 plans, en 2 minutes 27 de BA, ce qui nous donne une moyenne de 0,6 plans par seconde.
Oh, le classico.
On est sur du classico, on est
on
sur du plan.
On change rien, plan. Tout marche comme d'habitude.
Même s'il y a un petit enchaînement à certains moments de la BA où ça devient un peu plus genre actional movie, quoi. Mais par contre, je suis revenu à la stat qu'on avait abandonnée avant.
Pourcentage du film.
Oui,
alors, de 28 sur 3 heures de film, ça donne quoi?
Alors, 2 minutes d'image, on atteint à peine les 1% du film. Pourquoi un si petit chiffre? Parce que le film ne dure pas 3 heures, William.
3h30 ?
Il dure 2h59, arrête d'abuser. Oui, ouais. 2h59 de Harry Astor.
C'est
de...
trop, Harry, c'est trop.
Bah, Midsommar, il faisait 3 heures déjà, non ?
Oui, mais c'était beaucoup.
Pas, ouais, mais là, ouais, 2h59. Et encore, il voulait faire 4 heures au départ, donc on a quand même réussi à cut une heure. Mmh. 2h59, je sais pas, moi, ça m'effraie un peu.
Mais c'est des durées de film à la Kubrick, en fait. Hein.
Bah là, ça y est, il a. Mais je pense que, ouais, mais je sais pas, écoutez, ça va être. En plus, ça a l'air intense. Comme voyage, ça a l'air. Je sais pas si ça va être facile, hein, de 2h59. Écoutez, on verra, hein, après Midsommar. C'est vrai que la durée du film était aussi en rapport avec la mise en scène et l'histoire. Il y avait aussi ce truc-là de
il
lenteur.
Il sait prendre son temps pour faire ses scènes d'exposition, en tout cas. Donc.
On va voir ce que ça donne. Alors, on va s'analyser cette BA. Mmh. Alors, cette BA s'ouvre sur du bizarre, bizarre direct à l'Estrange. On commence.
Du malaisant, du uncanny.
On y est, ouais, ambiance Triangle of Sadness, ambiance sans filtre, hein, c'était le film Palme d'Or qui se passait sur un navire de croisière.
Un Corsica, ouais.
On retrouve ça, hein, parce que là, direct, on est sur une ambiance paquebot.
Oui, on est sur le pont, ça prend le soleil, tranquillou.
Ça prend le soleil, mais ce qui est marrant, hein, c'est qu'on retrouve aussi ce qu'il avait fait dans les BA de Midsommar, c'est qu'il y a des jeux de montage dans sa BA. Qui
ah ouais
ne sont pas en fait des jeux de montage de BA, mais qui seront certainement des jeux de montage dans le film. On a l'impression parfois que c'est la BA qui joue sur ce truc, mais par exemple, là, on découvre un Joaquin qui est blessé au visage, et il est en pyjama et il est assis sur un siège d'auto.
Mmh. Ouais.
Et puis, la transition où il tourne la tête vers la femme qui est derrière lui, transition, il devient un enfant sur un transat. Et en plus, c'est baigné dans une lumière, comment dire, une lumière un peu sitcom.
Oui, mais ça, du coup, c'est clairement une lumière de, c'est à l'intérieur de son esprit. Mm. C'est une échappée dans le souvenir, fantasmé, etc.
C'est déjà très inquiétant, en tout cas. Mm.
Sans trop en dire pour la suite de la BA, on se rend compte qu'une grosse partie du film va se passer dans ses hallucinations personnelles, j'ai l'impression.
Bah, je pense, parce que sinon il est dans un monde parallèle, c'est chaud quoi, c'est chaud. Donc ouais, ambiance inquiétante, et ensuite on a une transition sur une chambre d'enfant, donc peut-être un flashback aussi, où on entend en voix off une femme qui dit « Je suis désolée pour ce que ton père t'a transmis, mais je voulais un enfant, le plus beau cadeau de ma vie. »
C'est sa mère du coup, hein, on va supposer que c'est sa mère.
Est-ce que le père a transmis des peurs?
Peut-être simplement la peur tout court, le fait d'avoir peur de tout le temps.
Mais en tout cas, moi ce qui me fait peur, c'est un peu le visage du gosse.
C'est vrai, il est un peu
bizarre.
Je dis
pas qu'il est effrayant, non, c'est pas ça, mais c'est qu'il est montré un peu comme ça. Et j'ai l'impression que c'est un gimmick chez Aster d'aller caster des enfants chelous. Parce que dans Hérédité, t'avais la meuf, la gamine, qui était aussi un visage particulier, quoi.
Mmh. Ouais, et puis avec quelques SFX un peu bien posés sur le visage, une bonne lumière, et puis t'arrives à très rapidement effrayer n'importe qui avec n'importe quoi.
Ça fait flipper, je trouve. On a l'impression d'être dans un rêve, t'as envie d'en sortir.
En fait, c'est que la tête du gamin, c'est pas comme une tête d'enfant, tu vois, il a vraiment une tête d'adulte. Dans un gabarit enfant.
Ouais.
J'ai l'impression que c'est pas un vrai gamin, j'ai l'impression que c'est un faux visage. Hein. Je pense que c'est son visage à lui qui a été rajeuni, un petit peu calqué sur le visage du gamin en dessous.
Mappé, ouais. Je pense que c'est un peu le visage de Joaquin Phoenix mappé sur le visage du vrai comédien.
Je pense que c'est ça. Ouais.
C'est un mélange entre les deux,
tout
c'est pour ça que t'as
bizarre.
Cet effet Uncanny Valley, c'est qu'on est vraiment dans un entre-deux volontaire, je crois.
Putain, c'est pas con, j'avais pas pensé. Je pensais que c'était vraiment un gamin. J'ai pas regardé le cast, hein. Évidemment, on fait pas ça quand on fait
Non, il y a un vrai gamin qui joue le rôle de beau jeune.
Mais tête modifiée.
Mais je pense qu'à la post-production, ils ont fait en sorte de venir mapper traits du visage de Joaquin Phoenix sur le gamin.
On quitte cette ambiance inquiétante. On verra qu'on sera toujours en ambiance inquiétante de toute façon tout le long de la BA, mais moins inquiétante du coup.
Déjà, il y a des mommy issues.
Il y a une petite mommy issue, là, je pense, beaucoup même. Un petit travelling arrière typique film d'horreur, là. Avec le cri qui va bien, un truc à la Evil Dead, ça, pour ceux qui voient de quoi je parle. Et on cut net, transition, on est en psychothérapie, et
on nous donne l'objectif de Beau, qui va être son objectif de tout le film, j'ai l'impression.
D'aller voir sa maman.
D'aller voir sa daronne.
Donc il annonce à son psy que je vais voir ma mère demain, certainement une grande étape dans sa thérapie, parce que je sais pas, c'est annoncé comme ça. À mon avis, si c'est présent dans la BA, c'est que c'est important.
Mais en fait, il a l'air d'être complètement fils à maman. Tu vois, parce qu'en fait, par rapport à ce qu'elle dit au début, mon chéri, désolé, je voulais tellement avoir un enfant, c'est typique le profil de mère
surprotectrice,
dont l'enfant est toute sa vie. Et du coup, t'imagines que si lui a été élevé comme ça, bah, c'est vraiment un fils à maman, il a besoin d'elle pour tout, et c'est elle son repère dans le monde qui lui fait peur, ou je sais pas.
Bah, fils à maman, oui et non, ça peut l'air d'être une très bonne nouvelle quand il dit qu'il va avoir sa mère. Hein.
Bah... Alors, est-ce que la mauvaise nouvelle, c'est le fait de devoir aller voir sa mère, ou le fait de devoir sortir de chez lui pour aller la voir?
Moi, j'ai l'impression que
son vrai problème, c'est qu'il doit sortir et qu'il a peur de tout.
Ouais.
Et que rien que pour aller voir sa mère, ça va être une étape. Sa mère, je suppose qu'il doit l'aimer, qu'il doit être très heureux d'aller la voir, mais de devoir faire ce chemin pour y aller.
Moi, je pense que la mère l'effraie aussi. Enfin, je pense qu'il y a un truc avec la mère. Bah, rien que. Déjà, dans la BA introduction, elle est éclairée en rouge, avec quand même le truc inquiétant qu'on avait dans Sleepy Hollow, là, les petites veilleuses avec les petits trous qui font des sorcières, là. Ça, j'ai parlé de ça d'ailleurs, on en a pas parlé. Ça,
théâtre de lumière.
Ouais, il manque juste la petite musique de boîte à musique. Là,
affreux ça. Mais je pense que la mère, je sais pas si c'est un personnage très positif dans sa tête.
Tu sais, en fait, quand t'es en thérapie parce que ta mère t'a surcouvé et tout, c'est un peu paradoxal quoi. T'es à la fois hyper dépendant d'elle et en même temps, bah, du coup, c'est effrayant, c'est oppressant. Parce
en fait, moi, j'arrive pas à croire que c'est un fils à maman dans le sens où les fils à maman habitent à côté de leur mère, normalement.
Ouais.
Là, il a l'air d'habiter. Ça se trouve, elle habite de l'autre côté de la rue. Hein.
Oui, oui.
C'est peut-être ça le truc
en
aussi.
En fait, on s'imagine.
Non, il va
devoir
prendre l'avion et tout.
Pas, ouais.
Il parle de billets d'avion.
Ah oui, c'est vrai. Il y a ça. Ouais. Tu vois, j'ai déjà oublié. Alors, la musique se lance. Goodbye, Stranger.
Ouais, Bernard Arnault, il prend bien
Super
son jet pour aller d'un point de Londres à l'autre. Alors.
Super Trump, ouais, Super Trump.
Le morceau préféré de Marine Le Pen, je crois, non?
Ah bon?
Putain, mais c'est
Stranger.
Goodbye
Stranger, je
premier
crois
degré.
Que...
Ah, putain, j'avais pas capté. J'étais en mode, putain, mais tu connais trop bien sa vie, qu'est-ce qu'il y a, tes biographes?
Elle est bonne, elle est bonne. Mais un choix de musique pas si anodin, parce que, évidemment, quand vous regardez les paroles de la musique de Goodbye Stranger, on a l'impression que ça raconte ce qui va se passer dans la BA. C'est l'histoire d'un mec qui décide de partir à l'aventure et qui dit au revoir à tout le monde, en fait. Et il dit, voilà, je vais partir dans la forêt, je vais partir sur la mer, je vais partir... Donc bon, je vous le fais vite fait, hein, je vais pas tout vous traduire de...
Tu peux nous la chanter si tu veux.
Goodbye stranger in a friend.
Tu connais pas les paroles.
Je connais pas les paroles. Mais j'adore cette musique, hein. Ça c'était les albums de ma mère, ça tournait beaucoup à la maison. On a le panneau A24 qui se lance aussi là, à ce moment-là dans une ambiance théâtrale. Donc petit rideau, petite salle de théâtre quoi, tout simplement.
Vous avez déjà fait la remarque dans plusieurs épisodes qu'A24 ils font toujours en sorte de présenter leur logo de manière originale. Ils l'ont encore fait.
Ouais.
Ils restent sur leur ligne.
Hein, non, ils ne l'avaient pas fait la dernière fois pour The Whale. J'étais très étonnée et là je suis contente de voir qu'ils le refont.
Ça s'y prêtait pas.
Faire ça, un petit jet d'eau sur le 24. Pas fait. Mais...
Et il n'y a pas que ce logo-là, il y a aussi un autre logo, MW. Alors j'ai cherché MW, distribution et tout, j'ai rien trouvé. Mais on va y revenir.
Ah.
Nous allons y revenir sur ce MW. Alors,
c'est Mark Wahlberg qui est derrière tout ça.
Donc, mais non, Marky Mark.
Mark Wahlberg Productions presents. Non, le téléphone, on a une petite séquence au téléphone où du coup, c'est la maman qui est là. Salut Carotte. Carotte.
Ouais.
Bah.
Vous avez un petit nom comme ça, vous, que votre mère, elle vous donne
Pumpkin.
Ma mère m'appelle Oui-Oui.
Oui-Oui, eh putain, il y a jamais pensé. Oui-Oui, on va t'appeler comme ça maintenant.
Oui-Oui.
C'est chelou, mais ok.
On peut t'appeler Bill, si tu veux.
Le bon Bill.
Ah, ce bon vieux Bill.
Bon vieux Bill.
Ce bon vieux Bill.
Carotte, là, c'est le nom de Joaquin Phoenix. Voilà, je voulais juste te dire que je me réjouis énormément de te voir demain. Tu es mon ange, je t'aime.
Elle lui dit deux fois je t'aime. C'est pour ça que moi je trouve qu'elle a l'air de le surcouver,
oui,
parce qu'elle dit je t'aime.
Moment,
et ça, lui, je t'aime, c'est limite le truc de non, c'est toi qui raccroche. Non, c'est toi qui raccroche.
Ouais, et quand tu connais le court-métrage de Johnson, je vous en dis pas plus.
Inceste.
J'en dis pas plus.
Je vais trop loin.
Oh là là, ça va partir en inceste.
Donc on découvre Beau dans la rue, qui est un peu en mode Dr House. Là, il s'envoie des pilules, des fameuses pilules de films, de séries américaines, là où elles sont dans petites boîtes jaunes.
Oui.
On n'a pas ça ici, nous en France. Hein. Nous on a enfanté Feral Gang.
Nous on a aussi la Sécu, ils n'ont pas ça non plus là-bas.
Oui, c'est ça. Eux, ils les payent tellement cher qu'ils ont une jolie petite boîte jaune, quoi.
Ouais, ça vaut bien le coup quand même de payer aussi cher. Là, ils s'envoient des petits médocs. Hein,
ils s'envoient sa Vicodine.
Ou un truc du style, un truc
Xanax,
pour se calmer. Mais c'est pas ça qui dérange le plus, c'est que dans ce plan de la rue.
Il s'est trompé de. Je crois qu'il s'était trompé de bouteille, en fait, c'était des ecstasy.
Ah bah
dans
là,
sa petite boîte,
hein,
je crois.
Un truc de champi. Hein. Parce que what the fuck, qu'est-ce qui se passe à l'arrière-plan, quoi.
Ah bah on voit un gamin avec un gros gun, enfin avec un fusil.
AK-47,
ouais,
pour
AK-47, ouais.
Ouais.
En fait, il a l'air d'exagérer absolument tout ce qu'il voit. C'est-à-dire, il voit un gamin peut-être dans la rue avec un bâton, il l'imagine avec un
gun. C'est ça,
exemple,
moi je pense que c'est la retranscription de ses peurs.
Bien sûr.
En fait, alors que si on met le filtre réalité, tout est normal, tu vois, c'est une brocante normale.
Même, j'ai l'impression, vision un peu exagérée de l'Amérique, tu vois, un peu de la folie, quoi. Parce
oui,
que
ça pourrait être.
Il y a aussi à côté une nana qui a un panneau sur lequel il y a marqué I will cut my hands off.
Qui dit qu'elle va couper mes mains. C'est vrai que ça fait penser un peu à, tu sais, à ce qu'il dit, The World,
la
is
fin
the
end
world,
world is.
Mais c'est vrai que c'est pas, enfin, ça paraît exagéré, et en même temps, c'est quand même des trucs réels qui font peur par rapport, surtout aux États-Unis. Tu te dis, les gens qui portent des armes et tout. Moi, je suis un peu comme ça, hein, quand je vais aux States.
Bah là,
bon, tout le monde va me tirer dessus.
Il y a un côté un peu pré-apocalyptique pour le coup, tu vois.
Non,
comme si ça allait péter,
oui,
genre dans les jours qui suivent.
Non, puis en plus, on en a fait une blague en disant qu'ils n'ont pas de système de santé aux États-Unis, mais c'est quand même en partie vrai. Et pour être allé à Los Angeles dans des quartiers un peu limites, des fous dans la rue qui te font peur, il y en a vraiment beaucoup. Il y a des endroits qui sont... Enfin,
bah ouais.
C'est quand t'es là-bas que tu te rends compte qu'avoir un système de santé qui prend quand même en charge beaucoup de gens qui peuvent se retrouver malades ou atteints de maladies mentales, c'est quand même une bonne chose, tu vois.
Bah, regarde, imagine tous les films et les séries qu'on n'aurait pas eu s'il y avait de la sécu aux États-Unis. Il n'y aurait pas Breaking Bad, il n'y aurait pas Joker, il n'y aurait pas tout ça, parce qu'ils seraient tous traités, très bien remboursés.
Mais d'ailleurs, ça fait vachement penser à Joker, en effet, à Joaquin Phoenix, mais il y a aussi ce truc du gars un peu malade et un peu livré à lui-même parce que le pays ne l'aide pas, quoi.
Ouais, bah en tout cas, voilà, dans ce plan-là, je pense qu'on est sur la retranscription des idées mentales effrayantes de ce gars qui a l'air agoraphobe plus, quoi. Hein, vraiment, là, il est dans un level où il a peur de sortir et où il voit le monde à travers cette vision-là de chaos, d'apocalypse. Et là, il arrive chez lui et il se réchauffe un petit plat au micro-ondes. Ouais. un petit micro-ondes sur lequel on retrouve ce logo étrange qu'on a vu juste avant.
Mark Wahlberg Industries.
Mark Wahlberg qui est encore dans tous les coups fourrés.
Le mec a investi dans des gaufres, tu sais, des gaufres surgelées.
MW Microwave, enfin, mais c'est tout, tout est lié.
On pourrait y croire, mais on retrouve derrière aussi ce plat qui jette dans la poubelle, le Oloa, the best of Hawaii and Ireland.
Alors ça, c'est un mélange culinaire intéressant, j'ai hâte de goûter.
Intéressant, un mélange riche en fibres, hein, donc voilà, qu'il a payé 2 dollars et quelques. Mais bon, ce logo, moi, il commence à m'obséder en fait à ce moment-là.
Bon, arrête de nous teaser, dis-nous ce qui se passe.
Je commence à faire mes recherches. Donc je tape MW, j'enlève distribution et je mets MW Boys of Fred, je dis what the fuck. Et là, révélation,
non,
les gars, boum, on est sur un ARG de ouf.
C'est quoi, d'accord.
C'est quoi un ARG ?
Alors, un ARG, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire Alternate Reality Game. Mmh. En gros, jeu en réalité alternée. Et en fait, c'est un concept qui est né sur
YouTube. Hein,
voilà, c'est un peu du jeu de piste. En fait, c'est que, en fait, on va te proposer une vraie immersion narrative en utilisant le monde réel comme support pour promouvoir quelque chose de fictif.
D'accord.
Et donc, en fait, ce qui s'est passé là avec ce MW, c'est que ça va permettre de troubler un peu les spectateurs qui vont commencer à faire des recherches dessus. Et il y a des Reddit et tout que j'ai commencé à chercher. Il y a des Reddit autour de ça. Et il y a plein de pistes à travers Internet sur ce MW. Donc, je tape MW Boys of Fred. On tombe sur un site qui nous dit « Voulez-vous devenir ambassadeur de cette marque MW, de MW Ambassador ?» Et si tu rentres ton adresse mail, il se passe rien. Mais tu cliques « Entrer ».
Mais t'es fou, toi. Tu fais des trucs, mais…
J'ai rentré avec notre adresse mail. Hein. Fais ta bonne annonce à gmail.com
ah ouais,
si vous voulez nous écrire.
Donc on a failli tous mourir.
Ambassadeur de MW maintenant.
On a failli être tous ruinés, là.
Mark Wahlberg.
Ce qui est assez marrant, c'est que plus tard dans la bande-annonce, je vais légèrement spoiler, mais… Je suis pas étonné qu'ils aient fait ce genre de programme, puisqu'on a l'impression qu'il va atterrir dans un espèce de lieu un peu sectaire avec des gens qui vont vouloir un peu le conditionner, le contrôler. Du coup, je suis pas trop étonné qu'ils aient fait ce genre de ARG à côté, tu vois, de tiens, rentre ton adresse, on va t'envoyer des informations, et puis rejoins notre communauté, et puis reste avec nous et file-nous ton argent, s'il te plaît.
Et ça va encore plus loin parce qu'il y a un Instagram qui est sorti quelques mois avant la sortie du film. Instagram MW Corporations, donc c'est le nom de cette boîte.
Mais Marc, qu'as-tu fait ?
MW Industries. Alors MW, et quand tu veux leur parler en DM, t'as des réponses automatisées qui sont sorties.
ChatGPT.
Et en fait, ils te disent MW Industries est l'une des industries les plus prospères et les plus répandues en Amérique. Nous efforçons dans notre esprit d'entreprise et nos produits qui sont perfectly safe.
Ah, c'est MW Industries. Ah oui, le compte Insta, c'est MW Corporations.
Corporations, voilà. Je vous le mettrai aussi en lien dans la description si vous voulez aller voir. C'est complètement ouf. Et en fait, leur logo, c'est It's Perfectly Safe. Tout va très bien.
C'est
parfaitement sécure. Et après, il y a une petite histoire qui est racontée. C'est fondée par Mona Wilmington. On a enfin le pourquoi du MW. Elle est devenue l'une des industries les plus reconnaissables et les plus prospères des États-Unis. La qualité et le soin sont notre priorité numéro un. Actuellement, notre personnel en ligne est en pause pendant la période du début de l'année. Toutes nos excuses pour tout retard dans cette période et nous répondrons à toutes questions ou requêtes supplémentaires dès que possible.
C'est ouf. Et ça, c'est on dirait trop un truc à la Truman Show. Enfin, je sais pas, c'est vraiment tout un truc inventé, quoi.
C'est très malin d'avoir amené l'immersion pour le spectateur jusque dans la…
Et tu vas sur le Instagram
dans un jeu, quoi.
Et t'as plein de pubs et tout sur des, on dirait des médicaments. On retrouve notamment cette fameuse boîte de d'aliments micro-ondes et
plat,
tout.
Ouais.
On a l'impression que vraiment c'est un peu la grosse entreprise du film, quoi.
Et d'ailleurs c'est drôle parce qu'il y a une fausse pub du coup pour ce plat Perfectly Delicious et il y a écrit Just Like Mother's Good Old Home Cooking.
Justement. Home cooking. Est-ce que cette Mona Wilmington
ça serait pas la mère de Beau?
BMW Beau Michael.
On est sur l'histoire de celui qui a inventé les autos.
Et bon,
non, mais voilà, est-ce que justement on serait pas sur ça? Et moi, je me suis fait une petite théorie dans ma tête. Est-ce que ce serait pas du coup le cobaye, le patient peut-être. Zéro
cette corporation,
de cette Mona Wilmington, et en fait ça lui a complètement déglingué le cerveau.
Ça pourrait être ça, ce serait c'est une bonne piste, c'est une bonne théorie. Ouais.
En tout cas, c'est ouf qu'il y ait un ARG autour de
ça. Et ce que je trouve ouf aussi, c'est que par exemple, il y a un post Insta, c'est Motivation Mornings, et c'est un truc avec comme des musiques de radio façon MW, et dedans il y a la chanson de Supertramp, et il y a d'autres chansons, ça se trouve, c'est la BO du film.
Et ça renvoie sur une playlist Spotify.
Ouais, c'est ça,
par
en fait, on dirait presque qu'ils font, je vais peut-être loin, mais c'est peut-être les musiques qu'il y a dans le film, et qu'ils font en même temps la promo du film et de son contenu.
Je pense que ce sera les musiques qu'il y a dans le film et ça doit aussi être des indices comme pour les paroles de Goodbye Stranger et tout. C'est dingue, hein. C'est ultra passionnant en fait.
Si vous connaissez pas trop l'univers des ARG, On peut citer une chaîne YouTube qui en parle pas mal, c'est Feldup.
Ouais, Feldup. Ah oui.
Feldup,
Feldup, attention, c'est français, monsieur.
Qui parle souvent d'ARG, qui participe, qui en crée aussi, je crois, de temps en temps. Ouais. Si ça vous intéresse, allez voir, c'est vraiment sympa. Ouais.
Les ARG, c'est complètement dingue. Et puis sur Reddit, c'est un peu la passion ARG aussi. Il y a énormément de gens qui sont à fond sur l'enquête. Boys of Fred.
Puis eux, très connus, en ARG connu, il y a eu Antoine Daniel avec les initiales dans les vidéos.
Ouais, il y a eu ça, il y en a eu plein des ARG.
Je me rappelle plus, du
coup. Il y avait aussi une ARG énorme où il y avait des affiches collées à travers le monde pour trouver des clés. Je crois que c'est même pas résolu. Enfin, il y a plein de trucs comme ça.
En gros, si vous êtes fan d'Escape Game, mais que votre truc, c'est de rester un peu chez vous parce qu'il fait froid, l'ARG, c'est pour vous.
Si vous aimez plus les ordinateurs que les copains, vous pouvez faire ça.
Non, mais allez-y, voilà, si vous aimez les jeux d'énigmes, parce qu'en fait, c'est ça, hein, c'est une énigme virtuelle qui peut t'amener à te déplacer de temps en temps dans certaines rues pour pouvoir compléter l'énigme et avancer dans l'histoire.
Mais c'est parfait, c'est safe.
Je suis tombée complètement dans le truc, là. Et du coup, je regarde les stories du compte Insta et je vois qu'il y a une story spéciale MW Ambassadors. Et du coup, tu vois souvent des photos de gens, je ne sais pas si c'est des vrais gens ou si c'est des faux comptes pour le film. Ils ont une casquette avec le logo MW et ils ont un sticker où il y a écrit « When your MW ambassador, your family ».
Alors, il y a sûrement des indices cachés dans cette image. Peut-être que quand tu analyses l'image, il y a des petites lettres écrites très petites quelque part. Enfin,
Coup, tu te dis qu'ils pourraient même donner ces goodies à la sortie du film.
C'est en vente. Ouais. Il y a carrément tout un merch market.
C'est très malin ce qu'ils ont fait.
Avec le logo. C'est ouf, hein. Et c'est ultra passionnant. Et je suis même pas rentré là-dedans parce que ça a l'air vraiment. J'ai juste effleuré la partie émergée de l'iceberg, mais ça a l'air complètement beaucoup plus barré. Il doit y avoir des liens cachés un peu partout. Si ça vous intéresse, voilà, vous avez le lien du Instagram. Je vous mettrai aussi le lien du site où vous pouvez rentrer votre adresse mail. Pour l'instant, il s'est rien passé. Je sais juste qu'on est ambassadeur, mais j'ai pas reçu de mail.
le film sort mercredi prochain.
Dans un mois, on mange tous les mêmes plats que dans la VA et peut-être sous entièrement.
Peut-être que l'ARG commencera quand le film va sortir dans chaque pays, tu vois.
En tout cas, c'est passionnant. Moi, j'adore ça. Peut-être qu'il y aura des indices dans le film qui vont. Ben voilà. En tout cas, on se retrouve sur cette Mona Wilmington, sans doute peut-être la mère de Beau, qui est scientifique un peu space, quoi, qui a utilisé son fils comme cobaye. Moi, je pars sur ça. Et voilà. En tout cas, c'est l'incroyable aventure de Beau qui commence dans la bande-annonce. Parce qu'il décide d'aller rejoindre sa mère et là il se lance dans la ville pour rejoindre l'aéroport.
Et c'est le chaos.
C'est Bagdad.
Clairement.
C'est Bagdad dans la ville. On a l'impression qu'on est dans une scène de 28 jours plus tard, quoi.
Ouais.
L'apocalypse. Je pense vraiment que c'est le début de l'apocalypse.
Toi, tu crois que toi t'es premier degré, tu crois pas que c'est juste les expressions
de. Moi, je sais pas si c'est premier degré dans le sens où c'est extérieur à lui ou c'est à l'intérieur de lui, mais j'ai l'impression que ça va être un film apocalyptique.
Oui. Oui, mais ça peut être son ressenti.
Mais peut-être. Mais en tout cas, c'est l'esthétique convoquée. J'ai l'impression que c'est ça, quoi.
Ah bah, comme l'a dit Dumbledore dans Harry Potter, c'est pas
cependant,
parce que...
Cependant 100 points
pour Gryffondor.
Non, mais c'est pas parce que c'est dans ta tête que c'est forcément faux, Harry.
Mais ta tête dans la pancine,
Harry. Dit Dumbledore en train de tirer sur son pétard.
Sérieusement, ce que je trouve intéressant, c'est que, comme on a dit, il y a toujours des histoires de sectes dans les films d'Harry Astor, et surtout avec Midsommar, par exemple. Et si, imaginons que c'est encore une histoire de secte, bah, quand t'es dans des sectes, souvent, il y a des trucs un peu... scénario apocalyptique, le truc qui te tient en tant que personne complètement embrigadée, c'est bientôt la fin du monde et tout. Donc en vrai, ça peut totalement être relié à ce qu'on disait par rapport à la mère de Beau, et ça pourrait être super intéressant que ça soit un film qui raconte juste comment un gamin embrigadé depuis l'enfance sort, se libère lui-même de l'embrigadement et de la secte. Et c'est ça le voyage, c'est ça l'aventure, quoi.
S'il est pas mort de base.
Ah, peut-être.
Parce que l'appelle mon ange et tout. Enfin, je pars dans mes théories.
C'est fini,
il est dans le purgatoire.
Bon, Beau essaye de rejoindre sa mère. Il décide de sortir. C'est le chaos. Forcément, il lui arrive un truc.
Bah, bim, paf,
carton.
Il a pas regardé à gauche avant de commencer à traverser.
Il s'est pris une BM.
Ouais, je crois qu'il s'est même pris un camping-car.
Foreshadowing sur sa future activité.
Bah, Beau, voilà, se fait bien amocher la gueule par une voiture, quoi. Il se fait défoncer la gueule et il se réveille dans une chambre. Habillé de son pyjama qu'on a pu voir au début de la BA.
Oui.
Et il rencontre ce couple-là qui l'a renversé. Et là, l'ambiance, elle est encore trop chelou. C'est trop bizarre. C'est le genre de visage que tu vois dans les rêves. Ça me fout de la chair de poule.
Mais ce qui est trop bizarre, c'est qu'en fait, quand il se réveille, les gens lui disent « On vous a renversé, c'est nous qui vous avons renversé. » Et du coup, il s'occupe de lui. Et je trouve que ça fait presque manipulation, un peu à la Truman Show, du genre, tu vois, lui, il voulait sortir du truc.
La misogynie aussi.
Et en fait, c'était pas un hasard s'ils l'ont renversé. Et puis là, ils le remettent dans le... Enfin, du coup, je vois tout ça par ce prisme. Genre, ils le réembrigadent, ils l'ont emprisonné chez eux, en fait.
Il a l'hôpital.
Dans une chambre
avec peut-être un lit spécialisé. Mais
s'il a une, comment on appelle ça déjà, une
perfusion.
Mais en fait, en gros, il le soigne. Mais ce qui est intéressant, c'est que le lit autour de lui et tout, c'est comme une chambre d'enfant. Il y a des petits autocollants et tout. Et c'est vraiment comme s'il était infantilisé, tu vois. D'un seul coup, il devient dépendant d'eux.
Ce qui est marrant, c'est qu'ils le prennent vraiment pour un con. Ils essaient de lui faire croire que le bracelet électronique qu'il a au pied, c'est pour surveiller ses constantes. Là, t'as envie de dire, oh les gars, celle-là, je l'aurais pas
tout déclenché. Attends, t'as jamais. Je t'ai checké ton pouls au niveau de ta cheville, toi.
C'est une Fitbit, hein. C'est les montres.
J'ai pas entendu ça, pardon.
Ils sont space, voilà, ils ont décidé un peu de l'emprisonner. Misery, c'est un bon exemple, je l'avais pas quand je fais la bière, mais c'est vrai qu'avec ce truc à la cheville, ça fait penser un peu du Annie Wilkes pervers, quoi. Donc il regarde par la fenêtre de sa chambre et là, il découvre quoi ? Denis Ménochet.
Et Louane.
Il le regarde.
Et Louane. Denis Ménochet et Louane, quoi.
Dans un camping-car.
Dans une caravane.
What ?
Qu'est-ce que c'est que
ce délire ? C'est le jour 1. Celui qu'on retient.
La famille Bélier 2 avec s'efface. Denis Ménochet et Joaquin Phoenix. La famille Bélier The Fred.
Qu'est-ce que c'est que ce death? De toute façon, à partir de là, la réalité est perturbée. On est dans une dimension parallèle.
On va avoir une succession de tableaux qu'on va essayer de décrire un petit peu, mais ça va être compliqué. Quoi.
Donc, ouais, tu es triste à l'idée de rentrer chez toi. Bon, on lui dit, ça doit te sembler complètement irréel. Bah ouais, pas qu'à lui. Hein. Nous aussi, on trouve que c'est complètement irréel. Et là, il vire un peu parano. Hein, beau. Déjà qu'il était mal parti à la base, mais en plus là, enfermé avec un Denis Ménochet qui l'observe comme ça à la fenêtre.
Ouais.
Déjà, Denis Ménochet, wesh. Denis Ménochet, il a ses pairs à Hollywood.
Et en ce moment, parenthèse Denis, il est partout, Denis.
Denis.
En train de cartonner. Hein.
Il est en Espagne, il est aux States, everywhere.
Bravo, Denis. Fin de parenthèse. Denis
Ménoche.
Sacré Ménoche. Il s'enfuit du coup, le beau, parce qu'évidemment, pris de panique. Hein,
On comprend qu'il essaye. Est-ce qu'il va y arriver? La BA nous dit qu'il a l'air plutôt tendance de revenir toujours sur ses pages, j'ai l'impression, non? J'ai l'impression qu'il revient systématiquement à l'endroit d'où il part et qu'il essaye à chaque fois de repartir et qu'il va revenir.
Il part pour un long voyage. En plus, il est recouvert d'une petite substance bleu fluo.
C'est bizarre.
Qu'est-ce que c'est encore?
Très étrange.
Est-ce que c'est pas ces fameux glaçages qu'on retrouve sur les gâteaux américains dégueulasses, pur sucre? Non, je sais pas.
Attends, il va falloir que j'y réfléchisse un petit peu là. Tu me poses une colle.
Bref, on part sur un grand voyage et c'est la partie qu'on appelle la communauté de Beau. Parce que là, Galadriel arrive dans la BA. On entend la voix off de Galadriel qui lui dit « Tu vas faire beaucoup de kilomètres. Les dizaines deviendront des centaines et les centaines des milliers. Cette aventure durera des années. The world has changed. »
Et ce temps est révolu, elle a dit.
« I see it in the water. » Mais on dirait que Galadriel, en tout cas, lui annonce qu'il part pour un grand périple qui va durer longtemps. Et lui, il va devenir Bilbon Saké. Parce qu'il va commencer à écrire un peu ses aventures.
J'avoue.
C'est ce qui est montré. À un moment, il est habillé un peu comme Bilbo. Il commence à écrire ses aventures à la plume. Là.
On passe par plusieurs registres visuels. Il y a du film d'animation, il y a des clins d'œil type.
Il y a de la pancarte, de la pancarte.
Il y a de l'effet Paper Mario un peu, clairement. Hein.
Ouais, il y a des références à plusieurs films, Magicien d'Oz et tout.
Oui, c'est vrai que ça fait très Magicien d'Oz. Et puis ça fait très Michel Gondry.
Ouais, carton-pâte, l'effet carton-pâte. Parce que là, c'est clairement des décors de théâtre.
C'est pour ça que je pense qu'il va toujours revenir au même point. T'sais. Il va avancer dans des univers qui finalement reviennent toujours.
Peut-être que l'histoire, c'est juste que là, comme il est blessé, enfermé dans une maison, et ben, il va juste avoir le temps de lire et il va lire plein de livres.
Ah, tu crois pas qu'il a pété la vitre et qu'il s'est barré en courant dans les bois? Non.
Non, mais je sais pas, je m'imaginais un film super chiant en fait où il irait juste des livres.
Histoire sans fin, à chaque fois qu'il lit un truc, ça crée un univers dans lequel son personnage se projette peut-être.
Bon, en tout cas, il veut rentrer chez lui. Hein. Il a oublié d'aller voir sa mère. Mais il s'en fout. Hein. Lui, ce qu'il a envie, c'est de rentrer chez lui. Et il tombe face à Belphégor, version girl.
C'est sa mère, je crois, moi.
Hein. On dirait, tu sais, le truc dans Naruto. Bah, c'est sa mère, mais elle a un masque
de... C'est un Anbu.
Oui.
Itachi, non.
Ah oui, c'est un masque japonais.
Non, ça
c'est
pas.
Un masque carton-pâte.
Oui, mais c'est pas. Y a pas des masques un peu comme
c'est
ça.
Le seul truc qui est bizarre, c'est qu'elle a les cheveux collés un peu au masque.
Ouais. Bah, au Japon, il y a des masques. Bah, après, ça ressemble au masque à Venise et tout aussi.
On dirait un masque d'une marionnette quelconque qui parle. Hein.
Tu vas effrayer Clément.
Tu mets ça dans un film de Guillermo del Toro, ça fonctionne. Toi, son film d'animation. Tu prends Pinocchio, tu mets ce personnage-là avec les fées, par exemple, ça fonctionne visuellement. Tu vois, c'est vraiment. Espèce de visage désincarné qui bouge pas beaucoup.
Moi, ça m'évoque Annette, moi.
Exactement, j'allais dire Léo Scarrax.
Ah, oui, ça évoque
Annette, mais aussi Holly Motors, tu vois, des trucs un peu bizarres comme ça.
C'est pour ça que moi, je pense que c'est une variation de sa mère, enfin, en tout cas, de la manière dont il l'aperçoit.
Il l'aperçoit peut-être.
Peut-être qu'il va la voir plusieurs fois. Mais en plus, lui, il a l'air de changer d'âge beaucoup, beaucoup.
C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais on le voit à plusieurs étapes de son voyage, à plusieurs étapes de sa vie. Donc, on le voit. Au début de la quarantaine, grisonnant, mais ça va. Après, on le voit vraiment vieillir, finalement, jusqu'à atteindre un espèce d'âge avancé avec une grosse barbe, des cheveux longs blancs.
Il a un ballon qui s'appelle Wilson.
Ça pourrait. Ses pires craintes se transforment en grande aventure.
On a l'impression de Père Fouras.
Ça, c'est les panneaux de la BR. On a l'impression qu'on parle d'un Disney. On a l'impression que c'est la Reine des Neiges 3. Non, c'est Boys Afraid. N'emmenez pas vos enfants le voir. Hein. C'est pas une comédie musicale avec une meuf qui balance des glaçons. Non, c'est vraiment un
truc. Mais c'est vrai, c'est bizarre. Premier degré, moi, ça me donne presque l'impression à ce moment-là que le film va peut-être être finalement assez onirique, assez aventure. Et en vrai, je pense que ça sera horrible.
Si on est dans les Seigneurs des Anneaux, je sais pas. On va terminer la BA parce que là, ça s'enchaîne. Donc
Oui,
qu'est-ce que tu veux dire ?
Je voulais dire un truc sur le truc bleu.
Ah, t'as fait tes recherches, trucbleu.com.
Non, parce que plus tard dans la BA, il y a une photo, il y a une image d'une meuf blonde avec plein de trucs bleus autour de la bouche.
La dame
qui
de
dit,
la maison.
Oui, c'est Olivia.
Écharpez-le.
C'est celle qui joue dans The Office.
Donc je me demande s'il n'y a pas un côté substance un peu hallucinogène.
Ça serait pas un sang artificiel de robot ? C'est peut-être des robots ?
C'est trop, c'est des robots. Hein.
Oui, mais elle en a sur la bouche, alors quoi ? Elle a su, c'est un schtroumpf ou c'est parce que.
Oh mon dieu, c'est peut-être.
Elle a peut-être une hémorragie interne et du
c'est
coup.
C'est une relecture de Hansel et Gretel et qu'ils essayent de le gaver.
Non, je pense qu'il vient juste de se laver les dents avec le Colgate blancheur qui est bleu.
Et produit par la MG Company Corporation.
MW, attention. MG, c'est des concurrents, attention, ne confond pas. Et voilà, c'est tout. Écharpez-le. Ah, mais c'est tout. C'est parce qu'il a volé les brosses.
C'est bizarre comme verbe, écharpez-le.
Et dans la fin de la BA, on va la faire vite parce que là en plus les images s'enchaînent, mais là c'est Vietnam dans les bois. Brrr, ouais. Le mec il court dans les bois, ça a l'air d'être une grosse bataille dans une espèce de bois sombre. On voit des baisers un peu bizarres. À un moment il embrasse une itération de sa mère, j'ai l'impression, en animé. Il y a un peu ce mélange de genre, en gribouillis, ouais. La peur évidemment qui est là, l'herpès de Schtroumpf, t'en as parlé Kevin.
Bah oui.
Il va peut-être devoir affronter toutes ses peurs pour pouvoir atteindre sa mère, hein, donc ça veut dire aller parler à la femme qu'il aime, qu'il a pas pu voir, combattre, je sais pas.
Traverser des paysages lugubres, tout ça quoi.
Peut-être qu'il a été appelé à l'armée, qu'il y est pas allé, et que du coup, j'en sais rien.
Vaincre le boss de
nuit. À Forrest Gump.
Oui, peut-être que c'est un voyage initiatique à travers différents grands événements de l'histoire américaine.
On voit aussi un mec qui défonce la porte de son appart. Ça, c'est une petite ref au court-métrage de Johnson, j'en dis pas plus.
Ah. Arrête de spoiler le court-métrage de Johnson.
Il fait vraiment le connaisseur, celui-ci.
Ah, écoute,
celui-ci.
Voilà, il y a une histoire de mensonge, on le voit aussi crier « Pourquoi tu m'as menti ?» Donc il y a aussi ça. Est-ce que ça ne s'adresserait pas justement à sa mère ?« Pourquoi tu m'as menti alors que j'étais trop combat ?» Non, non, connasse.
En fait, je suis un robot.
Fuck you, mother.
Pourquoi tu m'as pas dit que j'étais un robot, maman ? Oui, tu t'appelles robot.
Voilà, et puis il y a des trucs un peu bizarres, on voit notamment une espèce de Roméo Don Juan qui vient poignarder, enfin mettre un coup de hache à une espèce de Rambo dans les bois, enfin on est sur un délire les gars. On revoit le paquebot, on voit aussi un théâtre de Zadis, là où ils sont tous assis en train de faire du tam-tam on dirait.
Le théâtre de la vie.
Et puis on a cette ambiance Synecdoche New York, on doit en parler, Synecdoche New York. Je crois que tu l'as évoqué,
oui,
Clémence.
Oui.
Synecdoche New York, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film de
Charlie Kaufman.
Charlie Kaufman, c'est celui qui a notamment scénarisé Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Dans la peau de John Malkovich, que des films un peu strange comme ça. Et Synecdoche New York, qui avec le grand regretté Philip Seymour Hoffman, retrace la vie d'un mec qui a pour ambition de créer la plus grande pièce de théâtre du monde. Et donc, où va se mêler justement théâtre et réalité et en même temps truc onirique. On ne sait plus trop au moment du film dans quelle vibe on se situe. C'est pour ça que ça fait vachement penser aussi à du Charlie Kaufman.
Peut-être que le film est très méta. Hein. C'est peut-être un film qui parle de cinéma.
Je ne sais pas, mais en tout cas, Charlie Kaufman, c'est vrai que c'est souvent assez psychologique, symbolique, psychanalytique. Enfin, t'as l'impression d'être dans les affres d'un cerveau humain et en même temps, c'est mis en scène comme la vie. Quoi. Enfin,
ouais.
Barry Astor, c'est un peu ça aussi, hein.
Mais plus dans l'horreur.
Dans un autre style, mais
oui,
au fond, le sujet, il est là, quoi.
C'est vraiment bizarre. C'est pas ouvert à tout le monde, hein, Charlie Kaufman. Et ce film-là, en tout cas, se rapproche le plus de Charlie Kaufman. Et puis, on termine par une petite ambiance raisin de la colère, petite maison dans la prairie, où on le voit déambuler dans un petit champ de carton-pâte, là, petit décor théâtral, avec un petit ange à la fin sur sa droite.
Peut-être qu'il se rend en purgatoire.
Moi, j'ai l'impression qu'on est sur une traversée de ça. Hein. Enfin, je sais pas. On va en parler tout de suite.
Dedans,
en tout cas, c'est la fin de la BA. Avez-vous envie de voir ce film ? Et puis, qu'est-ce que ça vous inspire comme histoire ? Tout ça, on va le dire. Avez-vous envie de voir ce film, Kevin ? Avec cette BA, est-ce que tu as envie de voir le film ?
Oui, j'ai envie de voir ce film. En fait, moi, j'aime bien Ari Aster. Donc, de toute façon, j'avais déjà envie de voir le film à l'origine. Mais là, avec les discussions qu'on a eues en plus, avec l'ARG et tout, que j'avais pas vu, j'ai encore plus envie de voir parce que j'ai l'impression qu'il y a une réflexion qui va au-delà du film, qui est un petit peu extra-film, quoi. Et j'aime bien quand les projets sont assez développé de cette manière-là, ça veut dire que, enfin, en général, c'est un bon signe, ça veut dire que l'œuvre va être travaillée, elle va être impactante, quoi. Et puis, esthétiquement, ça me plaît, Joaquin Phoenix, ça me plaît, Ari Aster, je trouve que c'est un des réals les plus intéressants actuellement qu'on ait, contemporain, quoi. Donc, très, très, très curieux de voir ce film-là, j'espère que les 3 heures seront utilisées à bon escient.
Ouais, c'est vrai qu'en plus, Il aime bien mettre un peu des énigmes dans ses films, notamment. Enfin, je ne sais pas si c'est volontaire, mais en tout cas, il y a beaucoup d'analyses qui en ressortent et de théories qui en ressortent des spectateurs. Et dans Midsommar, c'est full petits plans un peu subliminaux, petits easter eggs, notamment des visages cachés dans le décor, des choses comme ça, et puis toute une histoire autour du folklore, du lore autour de cette fête bizarre là.
Puis théorie de Graham, encore une fois sur ce film, je pense.
Voilà, il y a une théorie de Graham. Si vous connaissez pas théorie de Graham, on mettra le lien dans la description d'un mec, de plusieurs gars qui font des théories sur les films, et notamment ils ont parlé de Midsommar.
C'est vrai que pour Midsommar, il y avait aussi une espèce de truc extra-diégétique avec l'artiste Mupan, celui qui avait dessiné les fresques. Dans Midsommar, et ben cet artiste a aussi son compte Instagram. Alors c'était pas une ARG, mais voilà, le gars en tout cas faisait encore des dessins dans le style Midsommar des mois et des mois après. Limite, on peut continuer à le suivre. C'est comme si ça existait, quoi.
Donc là, d'avoir mis l'ARG encore plus loin, c'est vrai que ça donne très envie. William, même question, as-tu envie de voir ce film avec cette BA?
Bah, je suis un petit peu partagé parce que je reconnais vraiment le talent de réalisation, de mise en scène de Ari Aster. J'ai bien aimé ses deux premiers films. Après, j'avoue que moi, l'horreur psychologique, c'est un registre cinématographique qui me plaît pas plus que ça. Voire même, c'est un truc auquel que j'ai tendance un peu à fuir. C'est pas un registre qui me plaît particulièrement. Ça a tendance à me mettre dans des ambiances je sais pas, qui me conviennent pas trop. Ouais. Donc j'ai envie d'y aller parce que je sais que ça va me plaire. Joaquin Phoenix, très grand acteur. Mais c'est un peu comme Anya Taylor-Joy. J'ai peur de me tromper. Mais Anya Taylor-Joy. C'est des acteurs que je trouve un peu étonnants par leur physique. Je sais que c'est des bons acteurs. Je sais que ce qu'ils font, c'est incroyable. Mais j'arrive pas à les aimer. Ils sont dans un espèce d'Uncanny Valley où je les trouve toujours un peu détachés d'eux-mêmes, de leur voix, de leur manière de jouer. Pardon, j'ai ma voix qui part en couille. Et du coup, j'ai envie de voir le film. Mais 3 heures, ça me fait vraiment très peur. Parce que autant, je vais pas facilement vers les films d'Ari Aster, mais quand j'y vais toujours avec plaisir. Là, j'avoue que 3 heures, j'ai peur que ce soit trop pour moi.
2h59, arrête de te méprendre.
Oui, c'est 3 heures, Kevin. Romain, c'est 3 heures. Et j'ai envie de le voir, je sens que ça va être beau, je sens que ça va être assez perché, donc j'avoue que je suis assez intrigué, mais je ne sais pas. Je suis assez,
dubitatif, mitigé. Clémence, toi ?
Moi, je suis ultra hypée parce que je ne vais pas redire la même chose que Kevin, mais Ari Aster, j'ai adoré ses deux précédents films. Vraiment, c'était des grosses claques, énormes surprises, surtout Hérédité. Parce qu'on s'y attendait pas du tout à ce réel. Midsommar, ça durait déjà longtemps et c'était éprouvant, mais j'avais adoré. Moi, j'adore ce genre de film, en fait. Donc, pour le coup, là, ça me gêne pas du tout de me dire que ça va durer 3 heures. C'est vraiment ma came et j'adore qu'on m'embarque dans un truc complètement barré. Et c'est vrai que toutes les références qu'on peut sentir dans la BA, que ce soit Michel Gondry, Charlie Kaufman, même du Kubrick, même du King, Stephen
Lynch
King.
Lynch aussi, ouais.
Lynch, voilà. Tout ce que ça m'évoque, c'est que des choses que j'adore. Donc, en fait, j'ai l'impression que ça va être un voyage peut-être horrifique, peut-être horrible, mais qui va être marquant. Et...
Bah c'est sûr que pour toi et Kevin, qui êtes des très très gros fans du film de genre,
étrange aussi, ouais.
Étrange, ça va forcément être un régal.
Et puis tu vois, par exemple, vraiment, Eternal Sunshine of the Spotless Mind est un de mes films préférés. Ouais. Donc ce type de montage où effectivement ça traverse une vie, où c'est un peu incompréhensible au départ et après tu recolles les morceaux, tu comprends de quoi ça parle, j'adore en fait. Et surtout quand c'est très psychologique comme ça.
Et toi, Romain ?
Je rejoins le mix un peu de tous vos avis là. C'est vrai que moi au départ quand j'ai vu la BA, j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que ce délire, what the fuck. J'étais dans une qu'est-ce que c'est que ce Dells, ça a l'air trop space pour que, parce que moi je suis un peu comme toi quoi, je suis un peu réticent à l'idée de, tu vois, Lynch et tout, c'est pas trop ma came, alors on a l'impression que ça partage un peu le même univers. Sauf que là, lui, il le fait avec A24, qui prennent leur couille aujourd'hui dans une industrie ultra lisse et corporate, quoi, pour faire des choses un peu, un peu risquées, un peu novatrices. Et là, dans le domaine de l'horreur, en plus, qui est un genre que j'apprécie particulièrement, je trouvais qu'il y avait besoin de ce renouveau-là. Donc, j'aime bien Ari Aster pour ça, parce qu'en 2018-2019, avec Hérédité et Midsommar, il a su foutre un coup de pied dans la fourmilière. Mais honnêtement, à la première vue de cette BA, j'étais en mode non. Ensuite, à la vue de la durée du film, pareil que toi. Non. Parce que Midsommar, j'ai adoré ce film, mais j'ai quand même passé, un mauvais moment sur le coup, qui était nécessaire, je pense, parce que c'est l'intention du film, tu vois. Mais là, pour le coup, ça a l'air beaucoup plus barré que Midsommar, parce que ça utilise énormément de différences de style qui me font penser à un film de Lars von Trier qui m'avait traumatisé quand j'étais petit, qui s'appelle Dogville.
Ah oui, j'avais adoré.
Donc pareil, sur une mise en scène un peu théâtrale comme ça, Dogville, moi ça m'avait traumatisé, j'avais vu ça quand j'étais gosse.
Film dans un entrepôt avec tout est marqué au sol, ouais. Et c'est le son qui dirige l'action.
Et donc ça, j'ai un peu des réminiscences de ces états-là de traumatisme un peu. Mais en même temps, j'ai cette curiosité un peu perverse aussi d'aller voir. Et en découvrant l'ARG, Je me suis dit, ouais, il a du boulot quand même. Il ne prend pas pour des cons. Il propose quelque chose, tu vois, c'est cool.
Et peut-être qu'en s'immergeant dans tout ce qu'ils ont fait à côté du film, il va y avoir peut-être une grosse symbolique beaucoup plus forte qui va nous rattacher à beaucoup plus de choses à l'intérieur du film. Et du coup, ça va devenir une œuvre beaucoup plus importante, tu vois, que ce qu'elle n'est qu'à travers son médium filmographique. Ouais.
Bah, je suis moyen sûr que ça fasse autant d'entrées que Hérédité et Midsommar, de par la durée déjà pour commencer, de par l'étrangeté du truc. Parce que la bande-annonce montrait un mec qui adore juste les films d'horreur et un peu grand public, lambda et tout, il va se dire non, merci, c'est
ouais,
pas
ça
pour
a
moi.
L'air plus ambitieux, là, ouais. pour le coup. Moins
en
grand
fait,
public.
Là où Midsommar, sa durée pouvait plus facilement être absorbée, c'est que chronologiquement, le film, il était linéaire.
Oui, et puis en fait, la thématique était ultra claire, tu vois. C'était une secte dans une ambiance vraiment très particulière où il fait jamais nuit et ça se passe dans les pays.
Il prenait juste son temps de te montrer ce que ça pouvait donner. Là, on a quand même l'impression que c'est un film qui risque d'aller un peu dans tous les sens. Peut-être même d'être totalement chronologiquement mélangé. Et là, ça devient dur quand ça dure 3 heures. C'est-à-dire que ça demande une attention et une concentration pour comprendre ce qui se passe. Et ça demande beaucoup d'énergie. Et potentiellement, c'est là où tu peux lâcher ton spectateur. Faut pas oublier que l'humain, au bout de quelques heures, il a besoin de se reposer. Peu importe l'action que tu fasses au quotidien, que ce soit pour écrire un truc, pour faire ton travail, si tu prends pas des pauses toutes les 1h30, 2 heures, tu fatigues et tu commences à te déconcentrer. Voilà.
Putain de temps, il y avait des entr'actes hein, au cinéma.
Exactement. Et là, c'est vrai
sur
que
les grands films.
C'est ce qui devient, moi, je trouve, de plus en plus dur pour le spectateur, c'est de tenir 3 heures. 3 heures sans entr'acte, c'est dur, tu vois.
Non, mais ça dépend quel film.
Bah là, dans une ambiance ultra oppressante comme ça.
Midsommar, ça passait nickel, t'avais l'impression d'être sous drogue.
Ouais, c'est vrai.
Et...
Mais sur le coup, j'ai pas passé un bon moment.
Ouais, moi non plus, j'ai trouvé ça un peu long, tu vois.
Tu vois, même, il me semble que Annette de Léos Carax, il dure aussi pas loin de 3 heures.
Dure pas aussi longtemps, non. Le Seigneur des Anneaux, c'est parfait.
Mais regarde, mais pense par exemple même à. Bon, moi j'ai pas ce problème là, mais aux gens qui ont besoin d'aller régulièrement aux toilettes, toutes les 1h30. Non, mais.
Et bah, tu bois pas avant, tu fais attention une demi-heure avant, tu ne bois plus.
Ça paraît bête, mais imagine que t'es quelqu'un qui te dit, bah, moi, toutes les 1h30, j'ai besoin d'aller aux toilettes parce que mon corps, physiologiquement, il fonctionne comme ça. Bah, comment tu fais la deuxième heure et demie où tu es obligé de te retenir, où tu veux pas sortir pour pas te couper du film, etc. Ça paraît bête, mais moi, c'est des questions que je pense que parfois les réalisateurs ou les producteurs qui font ces films-là oublient. Attention, l'expérience du cinéma, c'est aussi une expérience physique.
On ne pense
attention,
pas assez aux besoins
les
primaires.
Gens pissent.
Mais non, c'est pas ça. C'est que le cinéma, c'est une expérience physique. Et assaillir les sens de quelqu'un pendant 3 heures sans lui donner de pause, ça peut être compliqué. Et de plus en plus, on le fait.
Mais tu sais que ça aussi, des fois, c'est une volonté des réalisateurs, des réalisatrices. Par exemple, Tarantino l'avait dit, moi j'aime regarder les films mal assis et des films qui me mettent mal à l'aise parce que justement, ça fait partie de l'expérience. Et je sais qu'il y a des réals qui pensent de cette manière-là aussi.
Oui, ils veulent peut-être mettre le spectateur dans une limite physique.
C'est ça. Et je pense que Ari Aster, il le fait. Tu vois, Gaspar Noé, par exemple.
Finalement, ma voix aujourd'hui, c'est l'enfer.
Tu bois un peu d'eau?
Bah non, ça devrait aller. Non, mais voilà, tu prends Gaspard Noé qui lui a décidé de systématiquement pousser son spectateur à bout physiquement. Ouais. Je comprends la démarche, mais 3 heures, c'est quand même très long.
Là, ça reste plus court que Avatar quand même. Mais ouais. Oui, c'est un débat, peut-être remettre des entr'actes, mais aujourd'hui, il faut que ça speed.
Il n'y a plus le temps aujourd'hui.
Voilà, l'industrie cinéma, de toute façon, ne le permettrait pas, et puis c'est pas possible logistiquement parlant.
Tu pourrais créer des conflits, c'est des gens qui se parlent. À l'entracte. Bon, alors, cette première heure de film, tu sais, les gens se pèteraient un cap, quoi.
Par contre, ils
pourraient. Je vous annule à chier. Pardon ? Non, c'était très bien.
Par contre, ils pourraient mettre à chaque siège un petit ustensile pour me faire pipi dedans.
Non, mais alors, lui, il a pété un boulon.
Petit un petit bidet pour bidet. Chacun.
Et hop.
Ne votez pas pour lui.
Non, comme ça, on est tranquille.
Les urinolibes.
Espérons qu'en tout cas, ces 3 heures soient, comme l'a dit Kevin, bien utilisées.
Voilà.
Pas trop.
Oui.
Pas...
Moi, je veux juste ressortir quelque chose.
J'espère.
Alors, quitte à être mal à l'aise, parce que moi, je me rappelle, à Midsommar, je suis sorti, j'étais en mode mutisme total, je pouvais plus parler, il a fallu un petit moment pour que je digère et tout. Et ensuite, pour analyser le film et finalement me dire que j'avais vu quelque chose de grand. Ouais. Si on est sur ce même effet-là, malaisant et tout, sur le coup, je vais peut-être un peu souffrir, mais si derrière, il y a vraiment une réflexion sur le cinéma d'horreur et ce que ça apporte aujourd'hui, si en plus de ça, on peut tirer des analyses sociétales et tout et compagnie, enfin bref, un vrai film
tu prends.
Au sens artistique de la chose, quoi, je prends. Voilà. On ira voir ce film, on verra, on vous dira si on a fait des cauchemars après en match retour ou si c'était un beau rêve bleu. Je n'y crois pas. Bon, bref. Allez, on va passer à ce que nous disent les internautes sur Internet avec le comme ci, comme ça de Clémence.
Comme ci, comme ça, comme ci, comme ci, comme ça.
Les commentaires des internets.
Comme ci, comme ci, comme ça.
Les commentaires des internets.
J'imagine si les commentaires sont fidèles à l'ambiance de la BA, ça doit être du what the fuck, non ?
Écoute, ça part dans tous les sens. Des gens aiment et des gens n'aiment pas. Voilà, j'en ai pour tous les goûts.
Binaire, quoi, deux.
Ouais, binaire. Dans deux directions, en fait. Je vais commencer par les gens qui sont hypés sur Ari Aster. Ça tient surtout au réal, évidemment. Luca Glio, qui lui dit « ça a l'air incroyablissime ». Après les deux masterclass que sont Hérédité et Midsommar, en même temps, normal. Voilà, qu'il est déjà conquis.
Ouais, conquis par Ari Aster. Ari Aster, d'ailleurs, à ne pas confondre avec Arya Stark. je tenais à le préciser.
J'ai bien aimé tes petits liens avec Harry Potter.
Ah, t'as capté la petite
ouais,
chambre lexicale.
Ouais. Sorcelée, nanana. Ouais. J'aimais bien. Slugmush Production aussi est à fond. Il a écrit, comme il a été dit en commentaire plus bas, A24 plus Ari Aster plus Joaquin Phoenix égale Artfuck Power Fist Over Kill of the Burning Big Boom chef-d'œuvre.
Ça pourrait être un titre, ça.
J'ai même pas besoin de voir ce film pour le qualifier ainsi. Un tel feat des meilleurs réals acteurs et studios de notre génération est déjà incontournable.
Ah ouais, attends, on a Jojo avec le Ménoche et Louane. Attends, paye ton trio, quoi.
Jules Verne aussi. Jules Verne est fan.
Jules Verne is back from the dead.
C'est vrai, il y aura d'autres gens célèbres dans les commentaires suivants. Et mais Jules Verne... Jules Verne est dans la team des gens conquis. Il dit « ça approche doucement, je compte les jours. C'est ça un fan d'Ari Aster. Il aura mis le temps pour faire et peaufiner ce film, je sens une masterclass.
Ah, » il a dû acheter lui le merch, casquette et compagnie et goodies ouais. MW.
Enfin, un dernier commentaire IP à propos du studio A24, c'est Racim Chena qui dit « c'est moi où tous les films A24 ont l'air ouf, ce n'est plus un studio mais un label de qualité. »
Ce n'est pas toi. C'est une réalité qu'on défend. Bah attends, William qui fait l'amour.
Bah non, mais on a eu quand même des films d'une qualité un peu moindre. Men, par exemple, c'était quand
ouais,
même un peu moins.
Ah, ça, il y a des débats.
Ils n'ont pas sans faute pour moi.
Disons qu'ils ne sont pas sans faute. Attention à ce qu'ils ne deviennent pas une parodie d'eux-mêmes.
Ah, ça,
pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais ça pourrait être.
Mais il y a plein de trucs que A24 qu'on ne voit pas entre temps qui sortent comme ça dans d'autres genres au ciné. Et en vrai, ça a l'air très varié. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils prennent des risques.
Bah là, il y a leur série sur Netflix que je conseille à tout le monde qui s'appelle Acharné en français, Bif en VO. Série A24, je savais même pas que c'était une série A24, je l'avais lancée par hasard comme ça. Et c'est super bien, c'est vraiment cool. C'est un peu un mix entre Pulp Fiction et du Guy Ritchie aux meilleures heures
oui.
et du Parasite. Voilà.
Ok,
d'accord.
Prenez ça, mélangez,
tu
ça peut donner
tu m'as donné envie. Tu
bon, alors tout le monde n'est pas d'accord sur A24. Lucas Bendetti, lui, il dit sans moi, A24, cette escroquerie. Smiley qui baille.
Voilà. C'est dur.
Écoute,
c'est dur.
Vous êtes ne jugera dur. Pas la vie des gens.
C'est ce Lucas qui aura fait la transition vers la team des non-enjaillés.
Non.
Bobby aussi. Bobby qui dit « J'espère que ça ne sera pas autant soporifique que Midsommar. »
Oh Bobby,
points.
Soporifique quand
enfin,
même, c'est
Bobby,
dur.
Quoi.
Putain Bobby, quand... Putain, Bobby. Enfin, Bobby. C'était le meilleur de l'équipe.
Et enfin, le dernier coup près impitoyable est celui de quelqu'un de célèbre, c'est Kurosawa. Kurosawa en personne, qui n'est pas fan d'Ari Aster.
From the dead too.
Kurosawa a écrit « Pas vu Hérédité, mais Midsommar était assommant de vacuité. La bande-annonce du nouveau film d'Aster annonce un gigantesque fourre-tout qui me donne déjà envie de fuir. Comme la modestie ne semble pas l'étouffer, j'imagine qu'il vise le monument excessif, presque devenu un genre en soi, de 3 heures, voire plus.
Wow. »
Alors, autant on peut
écrire, mais il y a un fond de vrai.
Alors, autant je peux comprendre qu'on critique le style cinématographique d'Ari Aster, parce que moi, je peux comprendre qu'on rentre pas dans Midsommar. Comme l'a dit Romain, quand tu vas le voir, tu peux passer un très mauvais moment en te disant... c'était dur, c'était lourd, c'était long, c'était intense. Est-ce que je suis prêt à avoir ce genre d'expérience au cinéma? Mais là, lui imputer, si tu veux, une volonté de... qu'est-ce qu'il a dit? Il est orgueilleux.
Moi, il a ressenti un peu, ouais, il a jugé un peu la personne.
Il a dit vacuité, ça je suis pas d'accord.
Je trouve ça dur de donner des intentions à un réalisateur sans...
Il dit la modestie ne l'étouffe
ouais,
pas.
Voilà, comment on peut juger ce genre de choses?
Moi je sais pas, je trouve qu'il y a un fond de vrai. Après, être prétentieux, c'est pas forcément un défaut. Hein.
Oui,
a...
les grands artistes sont souvent
prétentieux. Il y a des réals prétentieux qui font des trucs très bien. Ouais, ouais. Scorsese, c'est un mec hyper prétentieux, mais
Jodorowsky.
Fait des super films.
Mais
Jodorowsky,
tu vois, si on est dans le jugement zéro subjectivité, moi je suis sûr qu'Ari Aster en soirée, c'est le genre de arty new-yorkais hipster de merde.
acheter des
Starbucks caramelito double frappé avec le
cul de la
voisine.
Non, mais tu le mets avec Charlie Kaufman, ils sont imbuvables les deux.
Ah oui, les deux, t'as envie de les frapper. Tu mets un petit Guillaume Canet au milieu, là, il se fait bouffer.
Ah oui, je donne pas cher de sa peau.
Mais il fait des bons films.
Voilà.
I like you in the movies. Enfin,
dans une soirée
salon
où il y aurait d'un côté Charlie Kaufman et Harry Astor et de l'autre côté Guillaume Canet et Gilles Lelouch, vous iriez de quel côté?
Moi, j'irais du côté de Franck Gastambide.
Moi, Philippe Lachaud.
Ils ont l'air plus marrants en soirée.
Je sais pas, moi, je vais piquer de la bouffe dans le frigo.
Allez, les gars, contre-soirée dans les chiottes. C'est parti. Ok, bah merci Clémence pour ces commentaires. Bah, ouais, ça divise, normal. Hein, avec une bande-annonce aussi frappadingue. Voilà. Un titre qui a été changé. On est passé de Disappointment Boulevard à Boo is Afraid. Deux titres plutôt compliqués à dire en français. Est-ce qu'il ne serait pas temps pour nous de faire justice avec la rubrique qui arrive ?
Fais ton titre.
Merci, il y en a qui suivent.
Bien sûr.
Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre.
Do your title. Ça, c'est comme on dit là-bas, aux States.
Tout ce sait. Do your title. Yeah.
Do your title, motherfucker. Fais ton titre. Alors, cette semaine, c'est qui qu'on lance en premier là ? Qui c'est qu'on va lancer en premier ? Allez, William.
Bah, ça va être facile, j'en ai pas.
Non,
je vous jure, c'est.
Oh, t'en as pas ?
J'en ai aucun. Du coup, je vais prendre le premier, là, Disappointment Boulevard. Je prends.
Ah ouais, c'est pour ça que t'en as pas, parce que le tien a été pris.
Réutilisation de titre, quoi, carrément.
Non,
okay.
Non, vraiment, j'ai eu aucune idée. J'ai vraiment cherché longtemps, mais.
Ok, premier avertissement, William.
Ah bah, écoute.
Il se passe quoi ? Au bout de combien d'avis ?
Eh ben, n'y allez pas jusqu'au bout. Hein,
je montrerai le mot à mes parents, pardon.
Et, je serai ta nouvelle peur. Si tu reviens chantier,
je suis ta nouvelle peur. Regarde-moi dans les yeux.
C'est ton pire cauchemar. Clémence, des titres.
Oui, j'en ai plusieurs, mais j'étais vraiment dans un délire thérapie. Enfin, film thérapie, quoi. Pour un personnage qui a besoin de se faire psychanalyser. Du coup, mon premier titre, c'est 60 euros la séance.
Ah ouais. Ah ouais, on est. on est sur un bon tarif.
Bon, ouais, c'est le prix moyen chez les psys. Hein. Mmh. Mon deuxième titre, c'est Craziness Therapy.
Ah! Mmh. Not so bad.
Mon troisième titre, c'est Freud is a Fred.
Ah! Ça va. Ça
je pensais qu'il y avait un Oedipe Freud là-dedans. On verra. Et mon dernier titre, c'est Born to be a Larve.
Ça, c'est drôle, ça. Ouais.
Born to be a Larve.
Ça, c'est marrant. J'aime bien.
Ok, Kevin, des titres.
Ouais, j'en ai deux. Moi, je suis plus resté autour du comédien principal, de la star de ce show, bien sûr, Joaquin Phoenix, évidemment. Donc, j'ai un premier titre, c'est Joaquin Panix, parce qu'il a peur.
Pas mal.
Et j'ai un autre titre qui est une référence à une très grande œuvre que je vous invite tous à lire ou à regarder. C'est comme vous voulez, c'est Jojo Akin, Bizarre Adventure.
J'aime beaucoup ta petite référence de Weeb. Alors, bah, explique quand même la ref, peut-être pour ceux qui l'ont pas.
Bah, la ref, c'est le manga Jojo Bizarre Adventure, qui est une, comment décrire ça en peu de mots, une saga familiale fantastique
sur plusieurs générations.
Délirante sur plusieurs générations.
Voilà. Puis, ouais, qui peut faire penser aussi au, bah, au délire, au comment dire, pandémonium du film, quoi.
Ouais.
Je sais pas, je connais pas la série, je parle totalement au hasard.
c'est aussi fou.
J'ai juste des illustrations qui me viennent en tête, c'est tout ce que je sais. Ok, c'est bien, j'aime bien, ça a bien bossé. Pas de catchphrase, rien d'autre.
Pourquoi une catchphrase
alors que le titre dit déjà tout.
Et, oui. Et toi donc
Ouais, moi, comme ça a l'air d'être quelqu'un de sympa, hein, ce beau, j'avais un titre, c'était Moi, beau et gentil. J'ai juste fait le contraire de. Voilà, tout simplement. Hein.
Non, on avait. Hein.
Ouais, vous l'aviez. Après, comme c'est une aventure et tout, j'avais Indiana Joe et le secret de mes couilles sur ta. Je sais pas.
Mon dieu.
Voilà.
Zéro effort.
Tu fais pas trop chier quand même. Hein.
En ce moment, il y a quand même du laisser-aller.
Et après, comme c'est un film de Harry Astor et que c'est Beau Is Afraid, j'avais Haribo, c'est beau la vie pour les grands. Juste les grands. ça c'est en catchphrase.
C'est marrant.
C'est bien, moi j'aime bien ça.
Haribo, c'est beau la vie. D'ailleurs, c'est beau la vie. Moi, j'ai toujours pensé que c'était c'est bon la vie. Mais non, c'est beau la vie. Vous saviez ça ?
Je crois que c'est pas bon.
Haribo, c'est beau la vie.
Bah non, moi j'ai toujours pensé.
Je crois que c'était bon, moi.
Bah ouais, moi aussi, déçu. Déçu, non, c'est beau la vie. Haribo, c'est beau la vie.
J'en achèterai plus jamais.
Donc, Haribo, c'est beau la vie pour les grands, juste les grands. Puis j'avais un dernier titre pour parodier un autre film de lui.
Gladiator aussi.
Non, c'était Joker. Joker. Joker, tu vois.
Non.
Ok, non. Bon, bah voilà. Vous voulez écouter les titres des abos ? Parce qu'on a relancé les abos.
Les abos.
Ils participent.
Les abos.
Les abos. Les abos, c'est beau la vie. Les abos, c'est beau la vie.
Les abos, bon, bah, ça a pas trop mordu à l'hameçon pour la reprise de, du titre des abos qui existait plus depuis des mois, mais bon, on a quand même deux titres, enfin, deux personnes qui ont participé. On a Xavier qui est rentré dans le game avec, avec son titre, plus, il a deux titres même. Il avait pensé au départ à Pas de bol.
Ouais.
J'ai pas compris.
Sympa.
Ouais, Beau. Pas de bol.
Ah, pas de bol. Oui, ok.
Pas de bol, pour... parce que voilà, il a pas l'air d'avoir de chance, le pauvre Beau. Et ensuite, il partage un autre titre, à croire qu'ils sont concertés avec Chloé, qui a aussi proposé le même titre que lui, qui était Allô, maman, Bobo.
Oui.
On l'a déjà fait.
Avec des itérations genre Allô, maman, Beau à Bobo. Allô, maman. Mais voilà, le truc, c'est que c'est déjà fait avec notamment.
C'est fini.
Avec Sébastien Mouret.
Ouais, avec Sébastien Mouret qui a Allô, maman, Bobo. Et une catchphrase de Chloé qui disait Entrer dans l'Odyssée Beaumère. Donc, pour faire référence au Daddy Mommy Issues, Odyssée d'Homère, évidemment, voilà, qui est une aventure. Donc, petite participation. Voilà,
c'est bien,
la
bravo, bravo les abonnés.
C'est bien, continuer comme
met,
ça.
On met effort encouragé.
Tu vas plus lourd de
ça. Je veux dire ça, j'en ai zéro.
T'as rien ramené, quoi. Si eux, ils ont effort encouragé, frère, tu redoubles. Hein, je te dis direct.
Moi, j'ai déjà abandonné l'idée d'avoir mon bac.
Le conseil
mon
vote.
Bac de titre.
Alors, sur quoi on part, Crazy Nights Therapy, Joaquin Panix, Jojo Akin, Bizarre Adventures. Moi, j'aime bien la référence Weeb. Hein.
C'était
bah
quoi
ouais,
déjà
non, c'est
Jojo Akin,
Bizarre,
Bizarre,
Bizarre
Adventures. Parce que l'aventure, en
oui,
plus,
oui,
c'est un mot qu'on retrouve dans la BA. C'est bizarre, c'est du Jojo Akin. Et puis, il y a des liens qui se font bien.
Puis Jojo, quoi.
Tout ce côté malaisant, étrange à Harry Aster. Et puis Jojo, quoi. Ou je répète tout.
Oui, tu dis tu répètes alors que t'as pas lu.
Tu connais
rien. Oh, il connaît rien.
Alors moi, personnellement, Jojo Bizarre Adventure, j'ai jamais réussi à aller plus loin que la première saison, je crois. Tout ça.
Ah, il faut continuer.
Et c'est en pas plus, en plus, il change à chaque saison.
Chaque arc est différent, parce que chaque arc est une personne différente.
Ouais. Ouais. C'est très particulier.
Bon, vas-y, allez, Jojo.
Allez, Jojo Bizarre, Bizarre, Bizarre Adventures, en espérant que ce soit capté par le plus grand nombre.
Mais oui, c'est bien connu, Jojo.
Mais tout le monde adore Jojo.
Ouais. Jojo Pose.
Ok, ben bravo, Kevin. Jojo Akin.
Oh, il a fait une belle Jojo Pose.
Jojo Pose.
Il a fait une Jojo Pose. J'ai
Jojo
Pose. Je suis mal à l'aise. J'ai envie de donner le titre à Clémence.
Moi, c'était juste un dab. Enfin, on va pas se mentir.
Non, parce que. Bon, bref, il faut imaginer la touffe rose.
Faut imaginer que je sois debout et puis que je sois dans un habit très moulant. Enfin, bref.
Lady Oscar, quoi. Même délire. Bon, ok, bah allez, bah, c'est bon, ça part sur ça. On mettrait pas ma petite catchphrase là. J'aime bien moi ma petite catchphrase. Haribo, c'est bon, c'est beau la vie pour les grands, mais juste les grands.
Ah, oui, mais alors du coup, tu as écrit Harry comme Harry Aster.
Bah oui, bien sûr.
Ah.
Harry Beau, B-A-U.
Ouais, ouais, vas-y,
il
allez.
Sort pas de.
Let's go. Ouais.
On prend.
Il sort pas de la dodoche.
Ouais, en voiture Simone,
voilà, ça c'est la fin de l'épisode. Il n'y a plus rien qui sort, c'est que c'est fini. Et d'ailleurs, on va se dire au revoir et vous dire ce qu'on fait la semaine prochaine. Allez.
On n'est pas bien ?
Si.
Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander.
Voilà, voilà ! C'était l'épisode Boys of Fred, l'épisode Harry Aster, l'épisode horreur, malaise, bizarrerie et tant d'autres. Qu'est-ce que nous ferons pour comme Béa prochainement?
Je crois qu'on ne sera pas dans un ton beaucoup plus léger.
Car nous serons dans la gravité.
La gravité.
La gravité. Alors ce sera un film de SF français. Voilà, il y en a très peu au ciné pour passer à côté. Donc du coup, bah, on a envie d'en parler. Et voilà, on aura l'occasion de se faire cette BA, de se faire des films autour, et puis on parlera aussi, pourquoi pas, de ce genre très peu commun en France. On verra aussi à quel point le cinéma français est frileux à tout ce film de genre. Enfin bon, bref, il y a beaucoup de débats autour possibles. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les plateformes d'écoute, hein, que ce soit les matchs retour ou les BA, évidemment. Il y a aussi des hors-séries. Allez voir, abonnez-vous, mettez un j'aime, mettez un petit avis, ça fait toujours plaisir. Il y a le YouTube, évidemment, aussi, qui est là. Hein. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Parlez-en à votre voisine, pourquoi pas. Et pour nous retrouver sur les réseaux sociaux, c'est la Triforce magique. Hein. Twitter, Facebook et Instagram. Voilà. Et ben finalement, on avait peur de faire cet épisode et puis ça s'est bien passé.
Oui, il n'y a eu aucune limace.
J'ai un peu peur, même si je suis un peu rassuré.
Ah, tiens, regarde mon nombril. Et plonge dedans. On a...
Allez, on y va tous.
Venez dans mon nombril, allez. Nombril party.
J'ai envie de vomir.
Allez, dis bisous à tous.
Allez, bisous.
Bisous, 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 ciao.
Ciao.
Au revoir, Shoshana.
train de mettre un bruitage de vortex.
Ok, ça me dégoûte.
Qu'est-ce qu'il y a au fond dans l'ombril, le mec, en vrai, il n'y a que de la peau morte, clairement.
Et en plus, quand tu me fais des trucs comme ça, je sens le mien. Et
Tu ne peux pas sentir ton ombril.
Mais je sais que c'est impossible de sentir. Il est toujours là, Kevin. Mais psychologiquement, je le sens, alors que c'est pas possible de le sentir. Tu vois.
Enfin, est-ce qu'il te parle des fois?
Non, je suis pas fou non plus.
Il y a trop un film à faire.